Est-ce que vous avez été chanter dans des pays dont c'était la tradition musicale? Là, vous êtes en Suisse en ce moment. Je suppose que vous avez chanté en France. Comment réagissent les gens en Égypte ou au Liban, je ne sais, les pays qui sont normalement la source de cette musique, quand ils vous entendent?
Bon, je n'ai pas encore chanté dans tous les pays arabes, mais j'ai chanté dans des cercles privés que l'on appelle Nadwa en Égypte et en Tunisie, et les gens étaient vraiment à la fois fous de joie parce qu'ils redécouvrent quelque chose et en même temps très encourageants parce que bon, ils voient que des jeunes se mettent à s'intéressent à une partie de leur patrimoine. Donc le public dans ces pays-là était très 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 encourageant.
Et ils ne sont pas surpris que ce soit vous qui n'êtes pas d'origine arabe qui le fassiez, qui leur fassiez découvrir leur propre tradition musicale?
Si, ils sont très 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 agréablement surpris.
Il y a une dernière question que j'aimerais vous demander, Aïcha Redouar, c'est est-ce que cela fait partie de la tradition de la musique classique arabe, que ce soit les femmes qui chantent? Parce que la femme dans le monde arabe n'est pas particulièrement mise en valeur, mais on connaît Oum Kalsoum et vous chantez. Est-ce que c'est une tradition musicale que les femmes s'expriment par la chanson?
Oui, disons que la musique a toujours fait partie du milieu féminin. Autrefois, le milieu des hommes et des femmes était séparé. Par exemple, ce répertoire que nous jouons et interprétons était surtout masculin. Donc la plupart des pièces que je reprends ont été jouées ou interprétées par des hommes. Et ma manière aussi de chanter s'inspire beaucoup de la manière du chant des machaïr, par exemple Cheikh Youssef Melaoui, ou le chanteur Cheikh Salam Hijazi, qui était aussi comédien, ou bien le chanteur Abdelhay Hilmi, ou bien Cheikh Saïd Safti encore. Je m'inspire beaucoup beaucoup de leur manière de chanter parce que ils ont eux-mêmes été formés dans la psalmodie coranique. Et la psalmodie du Coran donne, si vous voulez, une solidité sûre, une certaine solidité à l'interprète, au chant. Par contre, en ce qui concerne le répertoire féminin, il existe, il est formé aussi de ce qu'on appelle la tartouqa, qui est une forme de chant plutôt léger, qui se constitue de refrain-couplet. Mais il y a un répertoire très très riche qui a été donné par les femmes. Et je ne pense pas que ce soit un hasard si je me suis attaquée à ce répertoire, parce que j'ai toujours été attirée par par la profondeur du chant. Et ce style chanté était surtout présent dans le milieu masculin.
Donc vous avez l'impression de faire un peu œuvre de pionnière en tant que femme reprenant ces chansons?
Vu de l'extérieur, ça peut être vu comme ça. Mais
et de l'intérieur, parce qu'il m'intéresse, c'est comment vous le ressentez et comment peut-être les femmes qui vous entendent quand vous allez chanter en Égypte ou ailleurs, est-ce qu'elles se disent « Ah, enfin, c'est des femmes qui chantent, une femme qui chante au lieu que ce soit des hommes ?»
Il y a beaucoup de chanteuses dans le monde arabe, il y en a énormément. Mais des chanteuses qui s'attaquent à ce répertoire précisément, il n'y en a pas. Ceci dit, pour moi, c'est avant tout un plaisir personnel que de... un plaisir personnel. c'est une passion. Donc, je pratique quelque chose qui correspond vraiment à ce que je demande à la musique. C'est vrai que les femmes qui m'ont entendu, les femmes arabes qui m'ont entendu, que ce soit en France ou dans d'autres pays, ont été honorées et elles me l'ont fait sentir. Et c'est un encouragement qui va dans les deux sens. Moi, je suis fière de chanter ce style musical et je le partage très volontiers avec mes amis EES.
Merci infiniment, Aïcha. C'était une rencontre avec Aïcha Redouane et l'ensemble Al-Adwar, ensemble qu'elle a formé avec son ami Habib Yamin, des musiciens qui jouent de la sitar, du luth et une sorte de guitare. Il y a un disque que vous entendez en ce moment, disque qui vient de sortir puisqu'il date de novembre 1993, qui a pour titre « Art vocal et instrumental du 19e siècle, Égypte ». Aïcha Redouane et l'ensemble Al-Adwar, je suppose que vous le trouvez chez tous les bons disquaires. Je vous rappelle que j'ai rencontré Aïcha Redouane après un concert organisé par les ateliers d'ethnomusicologie, les ateliers qui fêtent bientôt un anniversaire. Nous aurons l'occasion d'en reparler. La chanson que vous entendez en ce moment a pour titre « Donne du plaisir à ta vie ». Et elle était mise en musique par un très grand chanteur et compositeur du 19e siècle. Je ne vous dis pas les noms, j'ai trop peur de les massacrer. Cette chanson a été écrite à la fin du 19e siècle, comme on vous le disait. Et ce poème est une invitation franche au plaisir de la vie. Il convie l'être humain à la recherche du bonheur, de l'allégresse avec ses amis, par l'enivrement et à bien vivre son temps en oubliant les tracas et surtout les soucis du cœur. Et il se termine par cette phrase « Si la vie pouvait m'être agréable une fois, ce serait le remède. » Aïcha Redouane. C'était Aïcha Redouane, une chanteuse d'origine marocaine, mais qui chante l'art lyrique de la musique classique arabe. Nous avions eu un long entretien avec elle. Et je vous propose maintenant tout autre chose pour faire une transition avant d'évoquer un sujet tout autre, c'est-à-dire un dossier élaboré par Frédéric Lantieri dans l'événement du jeudi de la fin du mois d'octobre, « Que faire des délinquants sexuels ?» Tout de suite, Barbara.
À mourir pour mourir, je choisis l'âge tendre. Et partir pour partir, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle. Qu'on ne me voit jamais faner sous ma dentelle, faner sous ma dentelle. Et ne venez pas me dire qu'il est trop tôt pour mourir. Avec vos ombres plus claires, vous pouvez vous faire l'enlair. J'ai vu l'or et la pluie sur les forêts d'automne, les jardins alanguis, la vague qui se cogne, la vague qui se cogne. Et je sais sur mon cou la main nue qui se pose, et j'ai su à genoux la beauté d'une rose, la beauté d'une rose. Et tant mieux s'il y en a qui les yeux pleins de lumière ont préféré les combats pour aller se faire l'enlair. Au jardin du bon Dieu, ça n'a plus d'importance qu'on s'y couche amoureux ou tomber pour la France, ou tomber pour la France. Il est d'autres combats que la fin des mitrailles. On ne se blesse pas qu'à vos champs de bataille, qu'à vos champs de bataille. Et ne comptez pas sur moi s'il faut soulager mes frères. Et pour mes frères, ça ira. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Si c'est peu, si c'est rien, qu'il décide eux-mêmes. Je n'espère plus rien, mais je m'en vais sereine, mais je m'en vais sereine. Sur un long voilier noir, la mort pour équipage. Demain c'est le revoir, je quitte vos rivages, je quitte vos rivages. Car mourir pour mourir, je ne veux pas attendre. Et partir pour partir, je choisis l'âge tendre.
Barbara. Alors je vous propose maintenant de vous donner des extraits d'un dossier très très complet et très intéressant réalisé par Frédéric Lantieri, journaliste à l'événement du jeudi. Ce dossier paru sur le thème « Que faire des délinquants sexuels ?» est paru dans le journal l'édition de la semaine du 21 au 27 octobre dernier. Frédéric Lantieri pose des questions très importantes au moment où tout un débat ressort à propos de l'enfermement des délinquants sexuels. Cette question se pose par elle, disons, essentiellement d'un point de vue français, bien sûr, mais la question s'est reposée en Suisse aussi. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une émission très importante à la télévision suisse romande sur ce thème aussi. Donc, les questions se posent aussi dans des pays comme la Belgique, comme le Québec, comme l'Allemagne. Et la récidive auprès des délinquants sexuels, mais d'actualité, que faire des délinquants sexuels? Alors tout de suite, des extraits de ce dossier dirigé et réalisé par Frédéric Lantieri de l'événement du jeudi. «
Pierre Méhaignerie, ministre de la Justice en France, voudrait les enfermer à vie. Les spécialistes préfèrent les soigner. Sont-ils fous, malades ou tout bonnement des criminels ? Psychothérapie ou castration chimique, chaque cas exige ou exigerait un traitement approprié. Ce qui est sûr, c'est que la prison seule n'a jamais empêché la récidive. Le Centre national d'observation de la maison d'arrêt de Fresnes voit passer chaque année la totalité de 500 criminels condamnés à des peines de plus de 10 ans. Il s'agit, explique son directeur Bruno Clément, d'étudier à une grande échelle, de façon très précise, la personnalité des grands criminels. Les violeurs et les pédophiles, explique Bruno Clément, sont souvent issus d'un milieu proche de la misère socio-économique totale. Ils ont un niveau d'instruction extrêmement bas. Ils ont très souvent été eux-mêmes victimes dans leur enfance de sévices sexuels. Ils sont fréquemment alcooliques et ils souffrent d'énormes difficultés relationnelles et de communication, y compris dans leur vie conjugale. Pour eux, les enfants sont des proies faciles et souvent ils font retomber la responsabilité de leurs gestes sur leurs épouses, qu'ils accusent par exemple de ne pas s'être pliés à leurs fantasmes sexuels. Cependant, ils ne sont pas spécialement marginalisés. Même si leurs qualifications sont souvent restreintes, ce sont des gens qui travaillent, pour qui le travail est une valeur fondamentale même. Souvent, la perte d'un emploi précipite le passage à l'acte du violeur. Les pédophiles ont une certaine conscience du tabou qu'ils transgressent. Ils nous demandent souvent de ne pas les laisser comme ça, poursuit Bruno Clément. Si vous ne faites rien, menace-t-il, je vais recommencer. Il y a là une part de chantage, une façon de dire « c'est aussi votre faute si je suis là, vous ne m'avez jamais soigné ». Au début du siècle, on les castrait. Dans les années 30, on les lobotomisait. Aujourd'hui, en France, en Suisse, certains voudraient leur infliger une perpétuité réelle, radicale. Efficace ? Certainement. Mais n'y a-t-il pas d'autre solution pour protéger la société des violeurs meurtriers ? Admettre que ces criminels sont des malades, qu'on peut les soigner, est totalement inconcevable pour une opinion publique traumatisée par le martyre des enfants assassinés. En France, le ministre de la Justice, Pierre Méhaignerie, a estimé que les Français n'étaient pas prêts à entendre un discours qui ne serait pas celui de la seule vengeance. Son projet de loi présenté le 25 octobre de cette année, visant à instaurer une peine incompressible de 30 ans, assorti de conditions rendant la libération quasi impossible, va pourtant à l'encontre de la plupart des réflexions et des expériences menées par ses propres services. En France, depuis 1985, les délinquants sexuels constituent environ 12% de la population carcérale totale, mais ils sont surreprésentés chez les lourdes peines. Ainsi, en 1990, le Centre national d'observation de Fresnes, dont le directeur vient de faire le portrait des condamnés, qui voit passer donc tous des condamnés à plus de 10 ans de réclusion, a recensé 33,6% d'individus impliqués dans des affaires de mœurs. La moitié d'entre eux se sont attaqués à des majeurs, les autres à des enfants de moins de 15 ans. Il y a eu par exemple 326 condamnés pour viol sur mineur en 1991, contre 46 seulement en 1984. Préoccupé par cette augmentation spectaculaire du nombre des détenus pour crimes et délits sexuels et ébranlé par la multiplication des récidives, l'administration pénitentiaire française a constitué en décembre 1991 un comité qu'elle a appelé Santé-Justice, qui est composé de médecins, de fonctionnaires du ministère de la Santé et de la Justice pour étudier des solutions. C'est une façon implicite de reconnaître que la prison n'est pas la panacée. Mais sans les rendre publics, le comité pose des questions réputées embarrassantes, voire taboues. Ces détenus sont-ils malades ? Peut-on les soigner derrière les barreaux au lieu de se limiter à les garder ? Quelles sont les expériences déjà entreprises et avec quels résultats? Quel traitement peut-on proposer? Psychanalyse, comportementalisme, thérapie de groupe, castration chimique? Le groupe, le comité Santé-Justice, a également recensé les différents essais français, confidentiels, menés en tôle. Ils ont tous été réalisés dans les services médico-psychologiques des maisons d'arrêt. Ces services médico-psychologiques, 18 au total en France, financés par le ministère de la Santé, ont été créés dans les années 1985 pour répondre à l'énorme demande psychiatrique des prévenus. Certains directeurs des services médico-psychologiques ont fait preuve d'audace. À Vars, dans l'Isère par exemple, on a institué des groupes de parole avec des pédophiles et des violeurs, des pères incestueux. À la Santé, le docteur Odile Dormoy a mis sur pied des thérapies familiales, tandis qu'à Fleury-Mérogis, on a privilégié l'art-thérapie. Il n'y a pas de recette miracle, reconnaît le docteur Claude Baillet, le coordinateur du comité Santé-Justice, qui lui préconise le panachage des différentes méthodes. Une attitude qu'ont adopté de nombreux pays confrontés aux mêmes phénomènes tels que le Canada, la Belgique, l'Allemagne. La France, elle, est encore à se poser des problèmes d'éthique que ces pays ont peut-être résolus un peu hâtivement. Ainsi, la castration chimique pratiquée ailleurs sans difficulté a-t-elle beaucoup agité le comité français. Fin 1991, il a été saisi de cas expérimentés discrètement au service médico-psychologique de Nantes sur les détenus, dont certains n'étaient pas prêts de recouvrer la liberté. Une expérience qui l'a fait stopper tout net avant de décider d'une position globale. Il a donc élaboré un protocole très strict. La castration chimique, c'est-à-dire la prise d'anti-hormones, ne peut être prescrite qu'aux détenus volontaires sur le point d'être libérés avec un suivi endocrinologique et psychiatrique. Le comité national d'éthique auquel on a soumis la question depuis un an et demi n'a toujours pas répondu. Bien sûr, l'affaire est délicate, il faut éviter de nombreux écueils. La justice ne risque-t-elle pas de se défausser sur les psychiatres? A-t-elle la vocation de soigner ou de punir? Et si elle prononce une obligation de soins, saura-t-elle ne pas décider du traitement à la place du médecin? Mais en fait, pour l'instant, ces interrogations sont essentiellement abstraites. En effet, si un tribunal ou une cour d'assises peut prononcer une obligation de soins, l'administration pénitentiaire est actuellement incapable de l'assurer. Pour les condamnés, il n'existe rien, aucun crédit, aucune structure. Les centres de détention et les maisons centrales qui hébergent tous les condamnés à plus de 3 ans sont dépourvus d'unités de soins, contrairement aux maisons d'arrêt. À peine quelques vacations ici et là, un psychologue un après-midi tous les 15 jours, comme par exemple à Casabianca en Corse. À défaut de traitement global, l'administration pénitentiaire en est réduite à concentrer cette clientèle. Mais, dit-on, il ne pose aucun problème de sécurité, il ne s'évade jamais, il ne se mutine pas. En revanche, ils sont la proie des autres détenus. Dans ces établissements, on bricole comme on peut. À Caen, par exemple, qui accueille plus de 50% de sexuels, comme on dit, un psychologue assure des entretiens, mais ce sont les patients qui payent, 50 francs la séance. Dans d'autres centrales, le directeur est parvenu à faire financer la vacation d'un psy pour les prévenus en préventive. Une situation absurde, alors que c'est une fois la condamnation prononcée que le travail est le plus nécessaire, explique le docteur Claude Baillet. En fait, le projet de loi examiné le 25 octobre à l'Assemblée nationale française devrait mettre un terme à cette inégalité entre prévenus et condamnés. Il prévoit de transférer au ministère de la Santé la prise en charge financière, médicale et mentale de tous les détenus. Une participation qualifiée de légitime par l'administration pénitentiaire qui se plaint d'héberger de plus en plus de cas psychologiques. Auparavant, cette clientèle était soignée dans les asiles, mais on a fermé ces établissements, explique-t-on.